J'aimerais vous parler non pas de Saint-Aubin, qui est célébré aujourd'hui, mais bien des sœurs de l'Immaculée Conception, nos chères sœurs de l'Immaculée Conception, que nous avons appris à aimer très jeunes en lisant leurs exploits comme missionnaires qui partaient du Québec pour se rendre en Chine à une époque où ce n'était pas facile. D'autant plus que plusieurs d'entre elles ont eu à souffrir du communisme au début des années 50, particulièrement à Canton. Je voudrais vous parler donc de cinq de ces religieuses admirables, dont j'ai le nom de trois, Antoinette Chevrette, Germaine Gravel et Imelda Laperrière. Ce sont des sœurs qui se sont dévouées auprès des enfants, de ces enfants que l'on a vus récemment à la télévision, n'est-ce pas, de nombreux Québécois ne trouvant plus d'enfants ici à adopter, partent pour la Chine pour en adopter. On voit comment ces enfants sont parfois bien maltraités, semble-t-il. Et ça n'était certainement pas le cas avec les sœurs de l'Immaculée Conception, ces sœurs de chez nous, qui avaient des cœurs de mère adoptive. Je sais ce que ça peut être que d'être père adoptif. On aime son enfant autant, il me semble, que des parents qui ont mis eux-mêmes leur enfant au monde. L'adoption, du moins pour un homme, devient totale. C'est un des plus grands psychologues français, Denis Vasse, qui s'est fait jésuite, un psychiatre même, je crois, Denis Vasse, qui est devenu jésuite et qui a écrit beaucoup sur le désir et qui disait dans une entrevue qu'il nous avait accordée à la télévision de Radio-Canada, à l'émission Rencontre, qui a duré 20 ans à la télévision, et dont j'avais le bonheur d'être le réalisateur. Eh bien, Denis Vasse disait que tout père est adoptif dans un sens. Tout père accepte l'enfant que sa femme met au monde. Et c'est assez curieux à dire, mais c'est ce qu'il disait. Je crois qu'il a probablement raison au dire de plusieurs de mes amis qui sont pères. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous parle donc d'après un livre, La pourpre des martyrs, qu'a écrit un auteur qui signait Rémy et qu'il a publié chez Artem Fayard au début des années 50. Il avait consacré donc ce livre à la persécution que l'Église catholique en Chine a subie. Dans ce livre, il est question à un moment donné du procès qu'on a fait aux nos sœurs de l'Immaculée Conception qui travaillaient à Canton et qui avaient fondé un orphelinat et qui s'appelait le Divin Enfant, en mémoire évidemment de Jésus. Et alors, ce Rémy avait vécu d'ailleurs une existence qui avait été traquée durant l'occupation nazie de la France. Toute sa famille, ses camarades ont connu les prisons nazies ou les camps de déportation. Et cet auteur était à même de comprendre les souffrances qu'ont éprouvées les catholiques en Chine, particulièrement des religieux et des religieuses. Et aussi, évidemment, les catholiques chinois qui ont eu beaucoup à souffrir. Pour beaucoup d'entre eux, ce livre, Pourpre des martyrs, La pourpre des martyrs, a été comme une révélation. On n'imaginait pas jusqu'à quel point des religieuses pouvaient être maltraitées, non seulement par les autorités communistes, mais aussi par la foule qui était entraînée, en partie. C'est pas toute la foule qui était entraînée, il y avait une grande partie de la foule aussi qui connaissait bien le travail des sœurs et qui, bien que bouddhistes ou païens, comme on disait à l'époque, je n'aime pas ce terme, donc qui étaient bouddhistes, ils respectaient beaucoup les sœurs. C'est donc un témoignage de solidarité envers cette grande Église souffrante qui souffre encore actuellement dans le monde d'une façon épouvantable, quand on est au courant de ce qui se passe dans l'Église actuellement au Soudan, au Pakistan et dans quantité d'autres pays, on est terrifié que tout ça puisse survenir encore en 1996. Je vous rappelle simplement ce petit garçon qui s'est opposé au travail des enfants au Pakistan. C'était un petit chrétien, un petit catholique, hein, et qui a été assassiné. C'est tout récent, tout ça. Tous les faits que rapporte l'auteur de La pourpre des martyrs ont été puisés à des sources incontestables, hein, telles que l'Agencia Internazionale Fides, ou l'Agence internationale Fides, de Rome, la Société des missions étrangères aussi, de Paris. Il y a aussi le bulletin de Shanghai missionnaire de la Compagnie de Jésus, des Jésuites. Il y a aussi le China Missionary Bulletin de Hong Kong. Il a puisé aussi dans les annales des catéchismes missionnaires de Marie Immaculée de Paris et des rapports qui provenaient de différents missionnaires expulsés de Chine. Alors, l'épisode dramatique dont je vais vous faire part aujourd'hui n'est évidemment qu'une des illustrations de ce qu'a souffert, de ce qu'a supporté pour la foi cette Église de Chine, tant les évêques que les missionnaires, les prêtres étrangers ou les prêtres chinois, les religieuses chinoises ou les religieuses étrangères, la communauté quoi, des 5 millions de catholiques de Chine aujourd'hui. Nos sœurs québécoises de l'Immaculée Conception venaient de Montréal. Elles avaient, dès l'année 1909, ouvert cette crèche à Canton. Leur dévouement, leur compétence ont fait que les autorités de la ville de Canton leur ont confié rapidement la direction de la crèche municipale. Et quand, sur un terrain qui avait été mis à leur disposition, deux bouddhistes, les frères A. Boone, A c'est A-W pour traduire les sons chinois, et Boone, B-O-O-N. Et ces deux frères ont fait construire sur ce terrain la grande crèche du Val d'Or. Oui, Val d'Or, V-A-L, puis D-O-R. Alors, c'est aux religieuses de l'Immaculée Conception qu'ils ont tenu à confier l'établissement. Ce sont des bouddhistes qui l'ont construit. Elles en ont édifié un autre, auquel elles ont donné le nom d'orphelinat du divin enfant, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un beau nom pour un orphelinat, finalement. Le taux de mortalité des pauvres petits Chinois qui étaient recueillis par les sœurs elles-mêmes ou qui leur étaient apportés par la police défiait toute imagination, et c'était incroyable la quantité d'enfants. Vous vous souvenez, quand nous étions jeunes, il y avait l'œuvre de la Sainte Enfance. On disait qu'avec 25 sous, on pouvait ainsi se procurer des enfants, les adopter, en somme. Aujourd'hui, ça coûte 200-500 $ par année qu'il faut donner pour s'occuper d'un enfant. Je crois que le 25 sous suffisait pour dédommager les parents qui ne pouvaient pas élever ses enfants ou qui étaient malades. Les enfants risquaient de mourir et les pauvres mères chinoises apportaient ses enfants aux sœurs. D'ailleurs, un rapport officiel qui a été publié avant la guerre entre la Chine et le Japon dans les années 30 en donnait les raisons. Je vous lis ce texte qui n'est pas très long. En quel état sont apportés ces enfants? Premièrement, jeté le soir dans un coin et rongé par les rats, finalement adressé au couvent, 3 ou 4 enfants par an. Deuxièmement, laissé nu sur la terre humide à la naissance, quelques heures durant, 15 bébés par mois. Troisièmement, enfant de 2 à 9 ans, infirme, jeté à la rue, et envoyé à la crèche par la police, 20 par an. je continue la lecture de ce rapport officiel. Hein. 40% des bébés apportés meurent généralement le jour même. J'ai bien dit 40%. Le restant dure quelques jours ou quelques mois. Or, un tiers des petites filles auraient pu être sauvées avec les soins primordiaux à la naissance. Généralement, ces soins n'ont pas manqué aux petits garçons. Ceux-ci sont apportés à toute extrémité et meurent le jour même. On recueille en moyenne 9 filles pour un garçon. Ça continue en Chine, ce choix des garçons sur les filles. C'est terrible. La plupart des enfants, dit le rapport, sont apportés très malades. Une foule d'entre eux sont infectés de syphilis, 70 à 80%, ou de tétanos. En particulier, pour cette dernière maladie, ceux qui ont été abandonnés sur la terre battue. D'autres enfants ont souffert de la faim ou du mauvais temps en route. D'autres complications se révèlent. Une longue observation a montré que les enfants de mères opiomanes, qui prennent de l'opium, avaient besoin d'être nourris par leur propre mère ou par une nourrice également opiomane. Sinon, ils ne peuvent survivre. Ça rappelle les enfants qui naissent actuellement en grand nombre de parents qui prennent des drogues très dures. L'auteur Rémy, dans son livre, raconte que cet orphelinat était unanimement considéré comme un modèle du genre. Les médecins et les infirmières de grandes associations mondiales des Nations Unies, qui plus d'une fois lui avaient rendu visite, ne cachaient pas dans leur rapport l'admiration qu'ils éprouvaient pour son installation, car chaque enfant dont s'occupaient les sœurs de l'Immaculée Conception, qui venaient en grande partie de Montréal, disposait d'un lit pourvu d'un moustiquaire. Chaque bébé, disent les rapports, avait son berceau, l'électricité aussi, une eau saine et abondante, une cuisine particulièrement soignée, assurée à ces pauvres enfants abandonnés un confort et une sécurité inconnue de l'immense majorité des familles chinoises. Et la population de Canton manifestait évidemment sa reconnaissance aux religieuses par des dons en espèces ou en nature. Même les communistes ne s'étaient pas fait faute de leur prodiguer des éloges et des encouragements officiels, tandis que leur police communiste continuait de transporter à l'orphelinat les enfants trouvés. Les agents de police, d'ailleurs, ne se gênaient pas pour déclarer ouvertement que les pensionnaires de l'établissement des Sœurs de l'Immaculée Conception étaient bien mieux nourris qu'eux-mêmes. Et pourtant, comme il y avait, je vous l'ai dit, un taux anormal de mortalité, on a utilisé ce prétexte à un moment donné, le 26 janvier 1951. Ça a été le premier signe annonciateur d'une offensive marxiste qui s'est traduite par une perquisition dans les locaux de l'orphelinat du Divin Enfant. Pendant que se déroulait l'opération policière, on a apporté aux sœurs 3 bébés dont l'état était désespéré. Les sœurs ont demandé aux responsables, est-ce qu'il faut vraiment les recevoir? Alors, les policiers leur ont répondu, c'est vous qui avez la direction de la crèche, c'est à vous de décider. Alors, ils n'ont pas insisté davantage. Et sur le chemin du retour, Ils ont croisé une femme chinoise qui apportait à l'orphelinat des sœurs son enfant malade. Ils l'ont renvoyé en lui déclarant qu'il était inutile d'aller plus loin, que le bébé avait trop peu de temps à vivre. Mais il n'était pas question de rien modifier à tout un scénario qu'ils avaient établi. Un scénario vraiment diabolique. Un mois plus tard, le 28 février, toujours en 1951, le journal Nang Fang de Canton, qui prétendait se faire, disent-ils, écrivait-il, l'écho de l'indignation publique, ils se sont mis à dénoncer, disait-il, la mortalité excessivement élevée qui était constatée par les autorités chez les enfants recueillis par les sœurs à l'orphelinat, où les rares survivants, ouvrons les guillemets, passaient les plus belles années de leur vie dans des conditions sanitaires indescriptibles. Or, les affirmations du journal communiste étaient complètement différentes de tout ce qu'avaient dit les Nations Unies et tout ce qu'avait dit aussi la population de Canton et même les policiers communistes. Alors, le gouvernement populaire marxiste-léniniste était sollicité de faire immédiatement ouvrir une enquête sur ce nouveau crime impérialiste, disait-on. C'est bien le vocabulaire, crime impérialiste. Près d'un mois plus tard, le 17 mars, un communiqué de la municipalité de Canton avisait la population que 5 des sœurs, choisies parmi les plus coupables, avec leur mère supérieure à leur tête, avaient été incarcérées et qu'elles devaient répondre de leurs crimes devant le tribunal du peuple pour être punies, disait-on, conformément à la loi. Les marxistes se sont saisis de l'orphelinat, à la tête duquel ils ont placé immédiatement un comité, ils sont forts sur les comités, un comité de leur cru, dont le premier acte s'est traduit par la sensationnelle découverte, disait-on, d'une tombe commune de petits cadavres de bébés chinois. Alors, interrogée à ce sujet, la mère supérieure, qui s'appelait Antoinette Chevrette, ou mère Alphonse du Rédempteur, mais la mère supérieure adoptait évidemment une attitude, selon eux, tout à fait déraisonnable, car au lieu de franchement confesser l'assassinat des bébés, elle persistait, disait-on, à déclarer que la nature avait été leur meurtrier. C'est sûr qu'ils étaient morts à cause des mauvais traitements subis avant d'arriver à l'orphelinat. C'est évident. Or, la population était invitée à se rendre compte par elle-même des améliorations prétendues, des améliorations qui avaient été apportées très rapidement par le comité communiste à la gestion de l'établissement dont l'État maintenant assumait la charge. Alors, des rumeurs ont commencé aussitôt à circuler dans les rues de la ville. Et là, ça faisait pas plaisir aux communistes. On disait que les orphelines, qui étaient gaies et bien nourries du temps des sœurs, étaient aujourd'hui pâles et mal soignées, que leur tristesse avait frappé les visiteurs chinois et les cantonais, et que les enfants, les petites filles, avaient été priées devant les visiteurs par les membres du comité de raconter publiquement leur misère d'autrefois puis leur bonheur d'aujourd'hui. Mais les petites filles avaient éclaté en sanglots et elles réclamaient le retour des sœurs. On disait aussi, tout ça se disait dans Canton, dans la ville, qu'il n'était pas surprenant que le pourcentage des décès avait subitement baissé depuis que les communistes s'étaient emparés de l'orphelinat, pour la simple raison qu'aucun des enfants trouvés au coin des rues ou dans les champs ne bénéficiait désormais de la fiche d'admission, sans la production d'un certificat de vie. Pour avoir la fiche d'admission à l'orphelinat, il fallait avoir un certificat de vie, c'est-à-dire d'être raisonnablement en santé. Or, ce certificat de vie était délivré justement par les autorités communistes. Le 13 mars, le lendemain du jour de l'incarcération des sœurs, 10 bébés avaient été présentés. Le comité en avait repoussé 8 comme non viables. Puis, en dépit de son certificat de vie, l'un des deux qui avait été admis sur les 10 là, est mort le lendemain. Donc, Mère Alphonse du Rédempteur, Antoinette Chevrette, supérieure du Divin Enfant, Sœur Marie-Germaine, Germaine Gravel, Sœur Saint-Germain, de son nom dans le monde, Imelda Laperrière, Sœur Sainte-Foy, tous quatre originaires du Québec, et Sœur Saint-Victor, qui était américaine d'origine, étaient en prison depuis donc le 12 mars. Et dès leur incarcération, elles avaient dû se défaire, évidemment, de leur habit religieux. Le 2 décembre 1951, on leur a mis les menottes. Mère Alphonse du Rédempteur était enchaînée au poignet de son assistante, Sœur Marie-Germaine. Un camion ouvert à tous les vents attendait dans la cour de la prison les 5 prisonnières qui sont demeurées saisies à la vue de 500 paniers remplis d'ossements humains et de déchets innommables que contenait déjà le camion. Alors un policier leur dit « N'ayez pas peur, mes sœurs, on ne vous tuera pas. C'est une leçon, simplement, que nous voulons donner à la jeunesse. » Cet homme s'était exprimé en un français irréprochable, qu'il avait probablement appris grâce à l'enseignement des missionnaires. Alors, il donne l'ordre aux 5 religieuses de prendre place dans le camion et de s'y tenir debout. La porte qui donne sur la rue s'ouvre toute grande. Et là, une formidable clameur s'élève de la foule massée au dehors qui attend cet instant. Et le camion avance lentement. Le camion se ferait avec peine son chemin au milieu de toute cette cohue. Des hommes, des femmes, des enfants qui hurlent en chœur des slogans lancés par les communistes qui les entraînent. Une chrétienne aperçoit les sœurs et elle a laissé ce document. Elles étaient vêtues de noir, sans coiffe, les cheveux coupés courts. Leur attitude était magnifique, en particulier celle de la mère supérieure, qui, tenant ses yeux fermés, relevait sa tête aux traits délicats. Enfin, on s'arrête devant la grande porte du Memorial Hall de Sun Yat-sen, où doit avoir lieu le jugement populaire. Elles sont bousculées par les soldats, nos sœurs. Elles descendent sur le perron. « Entrez !» crie un policier. « Non !» hurle un autre. « Descendez à la cave !» crie un autre, un troisième, dont la voix est étouffée par le rugissement de la foule qui est en délire. Les sœurs qui l'ont cependant entendu font un pas. « un instant !» vocifère un quatrième, qui veut que les photographes puissent tout à leur aise fixer sur la pellicule ce moment unique. Enfin, on se met d'accord. Alors nos pauvres sœurs, tirées par l'un, poussées par l'autre, elles atteignent la cave. Et alors là, les soldats ricanent. Ils font des signes de croix absolument grotesques de la main gauche ou de la main droite. Ils se moquent en criant « Ce sont des catholiques, ces femmes-là !» Et au-dessus des têtes du petit groupe de sœurs, gronde une immense rumeur qui est faite du roulement incessant des tambours, puis de la résonance, vous savez, c'est très strident, là, les cymbales chinoises, puis tout le bruit rauque des haut-parleurs puis du murmure de la foule. Il est midi. Nous verrons tout à l'heure la suite de ce drame effroyable qu'ont eu à subir nos chères sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Alors nous continuons ce récit sur ce drame qui est survenu à 5 sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception au début des années 50 à Canton, en Chine. Nos 5 sœurs sont donc enfermées dans une cave pendant une longue heure. Et là, finalement, elles font leur entrée dans une énorme salle pleine à craquer, accueillie par une seule exclamation issue de plusieurs milliers de voix, à laquelle succède finalement un profond silence. Alors elles reçoivent l'ordre de prendre place debout sur une estrade composée de 2 grandes tables mises l'une sur l'autre et de tourner la tête du côté des juges. Une orpheline qu'elles ont soignée autrefois est la première à les accuser de prétendue cruauté. Chaque jour, dit-elle, les enfants étaient astreints à un dur travail. On les frappait, on les brûlait, on leur tirait les cheveux, on les faisait mettre à genoux, on les privait de nourriture, on nuisait gravement à leur santé. Des orphelines avaient été si cruellement battues qu'elles crachaient le sang, et frappées à coups de bâton, d'autres portaient de profondes blessures. Par ailleurs, continue cette enfant qui est sans doute menacée. Par ailleurs, elle recevait une éducation susceptible de les réduire à la condition d'esclaves, puisqu'elles ignoraient qu'elles avaient une patrie. Après la libération de Canton, les religieuses salissaient le gouvernement populaire par leurs propos malveillants, disait aussi cet enfant. Autant de faits hideux qui révélaient la face repoussante des impérialistes et rendent plus profonde la haine contre eux. C'est le rapport que l'on a du témoignage de cette jeune fille. Elle avait bien appris sa leçon, car tout ce qu'elle vient de débiter figure dans l'acte d'accusation, déjà publié par les journaux de Canton plusieurs jours auparavant. Une enfant de 6 ans et demi lui succède. Le visage fait peine à voir. Elle est atteinte d'exophtalmie congénitale et la pauvre petite a mission de témoigner qu'elle a contracté cette infirmité à la suite des coups qu'elle aurait reçus des religieuses. Mais elle est épouvantée, elle n'arrive pas à ouvrir la bouche en dépit des efforts d'une monitrice communiste qui s'exténue à lui arracher un seul petit « oui » en réponse à ses questions. Alors une des sœurs, qui est bien québécoise, perd patience. Elle dit, qui doit répondre au tribunal, la monitrice ou bien l'enfant? Alors 2 femmes et 2 hommes viennent répéter ce que la presse a imprimé. Puis c'est le tour de l'ancien fossoyeur de l'orphelinat. Il dit, « Tous les jours, je portais au cimetière 8 sacs, et chacun de ces sacs contenait 4, 5, 6 cadavres. Dégoûté de ce travail, j'ai donné ma démission. » Mais c'était un parfait menteur, hein, car la vérité était tout à fait différente. 5 ans plus tôt, les religieuses, les sœurs de l'Immaculée Conception, avaient dû se priver des services de cet individu qui était tellement paresseux qu'il n'arrivait pas à creuser suffisamment la terre. Et on avait remarqué que les chiens affamés, qui sont souvent laissés libres en Chine, n'est-ce pas, passaient derrière lui. Inutile de vous dire ce qui se passait. Il n'y avait aucun témoin à décharge. De telles interventions sont inconnues dans la procédure communiste marxiste, qui les sanctionne d'ailleurs sévèrement si quelqu'un osait dire le contraire. C'est la dictature, quoi. Et du haut de leur estrade, les 5 sœurs de l'Immaculée Conception, accusées, pouvaient voir serrées l'une contre l'autre, impuissantes à leur venir en aide, les 150 enfants à qui, 8 mois plus tôt, elles prodiguaient encore leurs soins, comme des vraies mères. La police avait fait en sorte que les orphelines puissent assister ainsi au procès de leur mère, après que l'une d'entre elles, refusant d'accuser les religieuses, avait été jetée en prison. Entre chaque accusation, les slogans lancés par le meneur de jeu là, étaient immédiatement repris par les haut-parleurs. Et ça attisait la haine de la foule qui se laisse monter. On voit ça partout. Hein. Une foule, c'est facile de la convaincre de n'importe quoi presque. C'est triste à dire, mais c'est souvent comme ça. Hein. Et alors la haine montait de minute en minute dans la foule. Alors un des policiers ordonne aux accusés, « Tournez-vous vers le peuple. » Alors elles obéissent. « Baissez la tête. » Parce qu'évidemment, il faut saluer le peuple. La façon dont s'y prennent les prisonnières n'est pas jugée suffisamment humble, car le policier grimpe sur l'estrade et puis du plat de sa main, il appuie lourdement sur la nuque des sœurs, qui est déjà baissée. Et la foule proteste avec véhémence. Alors il essaie de comprendre ce que veut le peuple, avec un P majuscule. Alors le policier discerne enfin parmi les cris qui fusent de toutes parts que la mère supérieure, sœur Antoinette Chevrette, doit saluer plus bas encore. Alors il remonte sur l'estrade puis il appuie brutalement sur la nuque. Plus bas, rugit la foule. Alors docilement, le policier revient sur ses pas. Il fait ce qu'ordonne le peuple. Un de ses assistants, aux applaudissements de cette crapule, pose sur le sol une grosse lampe électrique dont la lumière aveugle les religieuses. Alors on leur crie « Tournez-vous vers les juges ». Alors elles se tournent en direction de la table où siègent les officiels. Et on les accuse ainsi. On dit « Vous avez tué plus de 2000 enfants. Voilà le fruit de votre travail en Chine. Ces paniers sont remplis des ossements de vos victimes. » Alors la haine qui monte de la salle s'est faite si épaisse qu'on croit pouvoir presque la palper. L'air est devenu irrespirable et au milieu des huées puis des invectives, il y a des coups de sifflet. Les haut-parleurs qui laissent tomber sur la foule tous ces cris. Alors un juge lit la sentence à laquelle les sœurs de l'Immaculée Conception demeurent insensibles. Alors là, il y a un tapage indescriptible qui les empêche de savoir ce dont il est question. Mais on les fait descendre de l'estrade pour signer l'acte d'acceptation du verdict qu'on leur relit plus clairement. Le tribunal estime que dans sa mansuétude, c'est le texte, 8 mois de prison sont suffisants pour sœur Saint-Germain, sœur Sainte-Foy et sœur Saint-Victor. Expulsion à vie pour la première, sœur Saint-Germain, et la troisième, sœur Saint-Victor. Expulsion simple pour la seconde, sœur Sainte-Foy, qui est une simple comparse, dit-on. Mais la clémence du peuple, comme dit le texte, a ses limites. La supérieure, sœur Antoinette Chevrette, et son assistante sont condamnées à 5 ans de prison. Et on leur dit signer. Mais alors elles signent. Le jugement a duré 6 heures. Alors elles sont précédées de 2 gardes, baïonnettes au canon, et suivies de 2 autres, armées de la même façon. Les religieuses font le tour de la salle. Elles avancent difficilement dans les rangs pressés de l'assistance. Avec les insultes, les crachats pleuvent sur leurs vêtements, sur leurs mains, sur leurs visages. Enfin, après cet enfer, elles atteignent la porte, l'air libre. Mais cela va être pire encore. Par milliers, des gens, peut-on appeler ça des gens, se pressent en vagues comme de la houle, qui viennent battre les flancs du camion dont le chauffeur a bien reçu la consigne d'aller lentement, très lentement, afin que le peuple, toujours avec un P majuscule dans les documents anciens, ne soit pas frustré du bon plaisir que la municipalité de Canton leur offre gratis. Et là, c'est terrible, c'est la lapidation qui commence. Et la foule lance des pierres, des oranges et des bananes pourries, des clous, des tessons de bouteilles et des ordures de toutes sortes. Au comble de la fureur, une femme se déchausse pour lancer ses socs à la figure des sœurs, mais la foule qui tourbillonne autour d'elle est si dense qu'elle disparaît sans avoir pu aller jusqu'au bout de son geste. Armée de bâtons et de balais, je dis bien de balais, ou simplement de ses poings, une espèce de gang payée par les marxistes grimpe sur les garde-boues. Il frappe en hurlant les cinq sœurs de l'Immaculée Conception, qui, les bras ramenés derrière le dos, s'offrent sans défense aux coups qui pleuvent. Une cigarette allumée vient brûler le visage d'une des prisonnières avant d'aller mettre le feu au panier plein des déchets de ses victimes que quelqu'un avait tenu à hisser dans le camion. C'est ce qu'on appelle des déchets de ses victimes. C'est le texte officiel des communistes. Une autre des sœurs est défigurée. Une troisième a ses jambes couvertes d'ecchymose. Alors la mère supérieure et son assistante, qui sont particulièrement visées, ruissellent de sang. Alors, des gardiens crient entre deux hoquets, moqueurs, ne frappez pas, car ils n'en peuvent plus de rire devant ces femmes dont ils ont la garde et que leurs mains liées empêchent de se protéger contre la fureur du peuple. Mais l'une d'elles, une des sœurs, esquive le coup qui lui est destiné. Et elle découvre un soldat qui reçoit le bâton en pleine face. Alors il n'en faut pas plus pour que les policiers donnent l'ordre de s'accroupir au fond du camion, ce qu'ils font eux-mêmes, courbant l'échine sous l'avalanche qui ne fait plus aucune distinction entre garde et prisonnière. Alors la frénésie de la foule est tellement grande, elle devient si grande que deux missionnaires qui assistent de loin des prêtres, qui assistent de loin à la scène, croient que les sœurs vont mourir. Et de loin, ces deux prêtres missionnaires leur donnent l'absolution. Enfin, le camion peut entrer dans la cour de la prison, qui devient une espèce de havre de grâce, hein, après tout ce que ses sœurs ont souffert. Le retour a duré 2 heures. 2 heures. Un officiel chinois se réjouit devant les 5 victimes qui sont affreusement meurtries. Alors il déclare, la foule a été magnifique. Ils ont lancé de tout. Même des balais, ce qui en Chine est l'expression du mépris suprême envers celui qu'on veut rabaisser au-dessous de la condition humaine. Le 20 décembre 1952, l'agence de nouvelles FIDES apprenait que les deux religieuses, la mère supérieure et son assistante, qui avaient été condamnées à 5 ans d'emprisonnement, avaient été aperçues, dit le texte, en train de fabriquer et de réparer des chaussures en prison. Or, au début du mois de mars 1953, il y a 43 ans ces jours-ci, eh bien, ces deux femmes, les deux Québécoises admirables, étaient expulsées de Chine et elles arrivaient finalement à Hong Kong. Et le mois de mars, selon les bollandistes, les grands spécialistes des vite saints et de l'année liturgique, c'est le premier mois de l'année. Saviez-vous ça, que le mois de mars, c'est le premier mois de l'année, en fait? C'est en mars, selon les bollandistes, d'abord que le monde a été créé. Ben, c'est curieux. En mars que le Rédempteur, donc, a été conçu, comme je viens de vous le dire. Et non seulement on sait que le mois de mars est le premier mois de l'année, puisque le 9e mois de l'année s'appelle septembre, et c'est bien ça veut dire le 7e mois. Le 10e mois de notre année s'appelle octobre, qui veut dire 8e mois, et ainsi de suite. Novembre veut dire 9e mois, et décembre veut dire 10e mois. Les bollandistes, donc, croient aussi qu'en mars aura lieu la fin du monde. Ils écrivaient il y a bien des siècles. Ils disent que le monde sera jugé dans le mois où il a été fait. Le jugement dernier sera l'anniversaire de la création. Le mois de mars serait donc le mois des commencements puis le mois des renouvellements. Et pour cette raison, peut-être, il a été appelé Arcyon, du mot Arcius, qui veut dire complet. C'est de là que ça vient, Mars, Marcion, Marcius. Chez les Italiens, son nom était Primus, qui veut dire le premier mois. Chez les Hébreux, on l'appelait Nisan, et c'est par lui que commençait l'année chez les Juifs. Les Romains l'ont appelé Mars, du nom de celui à qui la guerre était dédiée, le dieu Mars. Et le premier des mois fut affecté, donc, à la première des idoles, à l'idole préférée des Romains. Les traditions les plus anciennes du monde attribuent au mois de mars, d'ailleurs, les plus remarquables privilèges. Le mois de mars aurait vu, dit-on, la première victoire de Dieu. Ce serait le 25 mars que Satan aurait été vaincu par Saint-Michel. C'est curieux, toutes ces vieilles légendes. Hein? Les anges aurait été créé en même temps que la lumière, et la lumière fut séparée des ténèbres. Et la séparation des bons et des mauvais anges est mystérieusement indiquée par cette division, dit-on dans un vieux texte. En somme, tout ce qu'on dit au sujet du mois de mars m'étonne dans ces vieux textes, et ces anniversaires ne seraient pas que des coïncidences. Ils se répondent les uns aux autres, comme les échos se répondent de montagne en montagne, disent les vieux, vieux textes. Ça m'amuse toujours de lire ces choses-là comme on avait des superstitions invraisemblables. Or, aujourd'hui, les superstitions reviennent. Et je ne voudrais pas tout vous lire, tout ce qu'il y a dans ces textes, car je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient prêts à croire ces bobards, ces choses inutiles. Or, il est beaucoup plus simple de se référer aux saints. Aujourd'hui, je vous ai dit que c'était la fête de Saint-Aubin. Aubin, dont les ancêtres étaient anglais, est né en Bretagne, près de Vannes, en 469. Puis, il a très tôt entendu, au fond de son cœur, le désir d'entrer dans un monastère près de Saumur. C'est une jolie petite ville, Saumur. C'est là qu'il y a l'école de cavalerie de Saumur, hein, en France. Mais il n'y avait pas d'école de cavalerie dans le temps de notre Saint-Aubin. Et les moines du monastère où il est entré, près de Saumur, l'ont choisi comme supérieur assez tôt. Il avait 35 ans. Il a travaillé à rétablir la vraie vie monastique dans sa communauté. C'est pas facile, réformer un monastère. Mais il semble pas avoir trouvé de position sérieuse de la part de ses confrères. qui témoigne, d'après les livres les plus anciens, qu'il avait, il jouissait d'une grande prudence, une grande sagesse. Il a été abbé pendant 25 ans. Et durant son abbatiat, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, il a été abbé, donc son abbatiat, hein, on a pu admirer la charité qui régnait dans ce monastère entre les frères, la paix qui régnait aussi dans le monastère, et aussi la qualité des célébrations qui attiraient les foules. Un homme d'une telle valeur ne pouvait pas rester méconnu, hein, dans le voisinage et même un peu plus loin. Alors on a songé à lui pour succéder à l'évêque du diocèse qui venait de mourir. Il a été réticent, mais il a fallu accepter ce qu'il considérait comme la volonté de Dieu. Alors il est devenu évêque d'Angers. Je vous ai parlé l'autre jour des martyrs d'Angers qui sont au moment de la Révolution, qui étaient sans doute héritiers de la foi de cet homme, car la foi se transmet de bouche à oreille, de génération en génération. Alors, devenu évêque d'Angers, il a été comme un flambeau dans un monde qui était dur et passablement barbare à cette époque. Il a travaillé pour le transformer. Il était assez sévère parfois, mais était très charitable. Et cet évêque a pratiqué surtout la charité envers les pauvres et les affligés, envers les malades aussi, envers les prisonniers. Et vous voyez l'action civilisatrice de l'Église catholique constamment à travers tous les siècles. Les gens qui veulent extirper l'Église catholique ne savent pas ce qu'ils font. Nous tomberons dans la barbarie quand le christianisme sera presque réduit à néant, s'ils parviennent à leur fin. On leur envoie déjà les signes annonciateurs, hein. Toute cette violence à la télévision, cette violence qui règne dans les villes aux États-Unis. Alors saint Aubin a combattu une coutume qu'il voulait voir disparaître. C'était celle des mariages vraiment incestueux, hein? Car à cette époque, on pouvait se marier n'importe comment. C'était très dur pour lui de faire ça. Il a consulté saint Césaire d'Arles, et durant le concile d'Orléans, dont il a été le promoteur, on établit des règles à ce sujet. Or, saint Aubin, âgé, infirme, est mort le 1er mars 550. Il est célèbre à cause des miracles qui lui ont été attribués. Et le fameux poète Venance Fortuna, qui nous a laissé des hymnes admirables, a raconté ça. Et Aubin est devenu l'un des saints les plus populaires du Moyen-Âge. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Car de France, sa réputation s'est étendue non seulement à l'Allemagne et à l'Angleterre, mais même à la Pologne. Il est évidemment le patron de la ville d'Angers. Il n'est d'ailleurs pas inconnu des chrétiens orthodoxes, nos frères séparés, qui le célèbrent aussi le 1er mars, comme nous.